Star Wars en direct remercie ses partenaires Mint in Box, Planète Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct depuis plus de 20 ans, la voix du fandom Star Wars pour cette nouvelle édition littérature consacrée à la conclusion de War of the Bounty Hunter, sortie chez Panini Comics. Donc ici Loïc, et pour en discuter avec moi, j'accueille les Tag et Bink de Star Wars en direct en la personne de Thomas et Jean. Bonjour messieurs.
Salut tout le monde.
Voilà. Salut, salut.
Donc voilà, on va se faire cette petite émission, enfin la conclusion de notre série fleuve du moment. Et évidemment, avant de démarrer, je vais faire toutes les petites annonces d'usage, exactement. Et donc, je commence avec notre partenaire pour les émissions de littérature, le groupe Star Wars Littérature Québec, que vous pouvez retrouver sur Facebook et qu'on vous invite à les rejoindre. Et on vous invite à participer à leur collecte de fonds pour la cause de la santé mentale au Québec. Vous le savez, puisque vous écoutez toutes nos émissions, mais on a également une magnifique boutique où vous pourrez retrouver des designs exclusifs et inédits pour porter les couleurs de Star Wars en direct, fièrement créés par notre suprême leader. Et je vous affiche à l'image le dernier, bien sûr, le fameux Hello There, le fameux Obi-Wan Kenobi, qui rencontre un franc succès. D'ailleurs, je crois qu'un de nos auditeurs le portait à QC.
J'ai cru voir passer Mathieu.
Et voilà, Mathieu, on te salue. On va faire tout de suite notre petit WhatsApp. On va commencer avec toi, Thomas. Est-ce que tu as des petites actualités Star Wars ?
Eh bien, oui, j'ai été donc à QC. Et c'était très marrant parce que ça a duré à peu près 3 heures, même pas. Une heure et demie d'émission, une heure le temps de faire le tour. Parce qu'on a crevé, on a éclaté un pneu sur l'autoroute. Donc du coup, évidemment, c'était folklorique. On a fini dans le camion, les gamins étaient trop contents. Du coup, moi, par contre, ça a été très, très rapide. Et voilà. Et du coup, on rentrait le soir et on a essayé de s'organiser un pique-nique. Mais ouais, je pense que l'organisation n'était pas de notre côté. Et en plus, comme on avait les trois gosses et le chien, je me suis dit que même si on avait réussi, je pense qu'on aurait juste foutu le pique-nique en l'air. Donc, c'était pas plus mal comme ça. Donc, voilà, voilà un peu pour les news.
Au moins, voilà un QC dont tu te souviendras.
Mais alors, globalement, on se souvient de tous. Hein, parce que chaque année, il y a toujours un truc cool. Mais... voilà, c'est un truc un peu atypique. Et aussi, il n'a pas plu à QC, il faisait presque beau. Et ça, c'est assez rare quand même.
Il a même fait beau, je crois, avec des belles températures, non ?
Il faisait pas mal. Ouais.
T'as pu profiter quand même un petit peu des animations, tout ça ?
Les animations, non. Techniquement, non, j'ai fait les stands. J'ai surtout été voir rapidement les costumes parce que j'avais repéré par le groupe Facebook qu'il y aurait une Madame Grenouille. J'avais vu les photos, je me suis dit, faut que je la voie, elle était magnifique. Alors, il y avait un C3PO qui était très bien, mais bon, les C3PO, on en a déjà vu, entre guillemets, alors il était vraiment parfait.
Hein,
vraiment,
alors, t'en vois pas souvent, hein, puis de cette qualité-là, t'en vois encore moins souvent.
Ouais, surtout de cette qualité,
j'entends. Ouais,
mais c'est un membre... un personnage qu'on connaissait, alors que là, c'était vraiment un nouveau perso, enfin voilà, il y a ce côté fraîcheur qui était cool, et en plus, c'est un alien, alors que C3PO, c'est un robot. Donc ça, alors, c'est la hiérarchie des normes.
Oui, c'est vrai,
c'est
pour
la
toi
série ma...
forcément.
Tu parles de Madame Grenouille, c'était la Madame Grenouille de la série Mandalorian, c'est ça ?
C'est ça.
Ouais, celle que Grogu lui bouffe les deux là.
Ah oui, d'accord.
Jean, vas-y, tu peux enchaîner sur ton WhatsApp.
WhatsApp, alors un petit peu de jeux vidéo avec toujours sur le Lego Star Wars. Hein. On s'éclate bien à tout récupérer à 100% là et. Donc on parle beaucoup sur la communauté Discord, là d'ailleurs, excellente communauté Discord.
Celui de la saga Skywalker, là.
À rejoindre. Oui, le dernier, le tout dernier qui est sorti il y a un mois ou deux. Là.
Et il n'y a pas une DLC sur le Mandalorian aussi ?
Alors, un mois, ouais. Oui, alors il y a eu des DLC. Alors moi, j'ai la version collector, les DLC étaient inclus dedans, mais oui, je crois que les DLC sont sortis avec des packs de personnages Mandalorian, Bad Batch, Solo, Rogue One, et il y a aussi une espèce de pack classique.
Mais t'as pas les histoires, par contre, dans les DLC, t'as que les personnages.
Voilà, c'est que des personnages que tu peux jouer en jeu, mais dans les 9 films. T'as pas les histoires des films ou des séries, quoi. C'est vraiment, ils se concentrent vraiment sur les histoires des 9 films, malheureusement.
Alors, paraît-il que c'est le jeu le plus vendu de toute l'histoire Lego. En termes de démarrage, les mecs, ils ont jamais cartonné comme ça. C'est mérité ou pas
Mérité, moi je trouve que c'est mérité parce que c'est quand même impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Quoi. T'as 23 planètes. Bon, c'est des petits mondes, tu vois, mais des petits mondes ouverts, quoi. Donc c'est relativement bien fait. C'est, non, c'est très agréable à jouer. Là, tu vois, on joue à la petite de 4 ans, elle s'éclate dessus.
Tu joues en coop ?
Juste à se balader. Ouais, en coop avec elle. Parfois, quand moi je suis occupé, ben, elle se fait 10 minutes comme ça, à se balader dans la ville, tu vois. Elle change de planète et tout, tu vois. Elle fait des petites. Elle suit pas vraiment l'histoire ou l'émission, tu vois. Elle se balade. Ouais. Elle tape des trucs, elle détruit des trucs, elle parle aux gens.
Et ce qui est cool, c'est que dans Lego, tu meurs pas. Et moi, je sais que c'est les premiers jeux que j'ai fait avec mes gosses. Parce qu'effectivement, ils vont pas mourir. Donc,
ah ben ouais.
Tu peux avoir un coop boulet, c'est pas gênant.
Ouais, exactement.
Sinon, quand tu joues avec ton gosse, s'il est mauvais, t'es obligé de lui mettre des claques pour qu'il joue bien, tu vois. Alors que là, tu dis vas-y.
Mais le truc, c'est que j'essaie de faire quelques missions avec elle, et c'est vrai que bon, c'est bien plus compliqué quand il faut se coordonner pour c'est les interrupteurs, des trucs comme ça. Donc ouais, c'est vraiment. Pour la base, ça va, mais si tu veux faire des trucs un peu plus compliqués, suivre l'histoire, par contre, ça va être un peu. Ouais,
elle a quel âge, ta petite?
Elle a 4 ans, donc on attend un petit peu.
c'est les débuts.
C'est les débuts. Franchement, ouais, ça fait marrer de la voir, tu sais, avec. Mais les vôtres aussi, j'imagine.
Elle planche la manette, ouais, je me rappelle.
Voilà, exactement, ouais. Ça, c'est trop drôle. Et elle arrive à coordonner, là, tu vois, au début, elle a du mal, tu sais, deux joysticks quand même à gérer, il y a les boutons, les trucs, les changements de perso, il y a quand même pas mal de commandes. Et petit à petit, ils comprennent vite, hein, à cet âge-là, ça rentre vite.
Ouais, et au début, soit ils font tourner la caméra, donc tu chopes la gerbe, ou alors le personnage, il va tout droit tout le temps, quoi.
Ouais.
C'est l'un ou l'autre,
le joystick gauche, il est à fond sur le gauche, et elle a du mal avec la caméra de droite, du coup. C'est rigolo, quoi. C'est sympa. Non, mais très bon jeu. Franchement, je vous conseille si vous n'avez pas craqué.
Parce que souvent, ils sont rapidement autour des 20 balles, quand même, les jeux Lego.
Ouais, alors, la version collector, elle était à 100$ ici. C'était un peu abusé. Donc, non, ça vaut pas ce prix-là. Je dirais pas. Attends que ça baisse un peu si t'es intéressé, mais pas pressé. Attends que ça baisse un peu, tu vas t'éclater pas trop cher.
Donc, ça vaut le coup.
Mais ouais, okay. C'est un jeu Lego, ça vaut jamais ces prix-là, quoi.
Tu le fais sur PS?
Alors, moi, je le fais sur Switch. Je sais qu'il y en a plusieurs sur Discord qui font, il y a un peu tout, je crois que c'est Sylvain qui fait sur Xbox, il y en a quelques-uns qui font sur PlayStation, il y a 5 du coup, et il y a moi, Exarkun, je crois qu'il fait sur Switch aussi, et donc voilà, il y a un peu un florilège sur Discord, et c'est pour ça, donc je répète...
Et est-ce qu'ils jouent à 4 sur Discord, la Switch?
De quoi?
Sur Switch, est-ce qu'ils ont une version 4 joueurs?
Non, tu vois, j'ai pensé à ça, mais non, 2 joueurs seulement. De joueurs en éclat,
c'est dommage.
Peut-être pour la prochaine, mais ouais, ils ont jamais fait de jeu de mode à 4. Hein. Tout le temps de 2 joueurs, si je me rappelle.
Moi, j'attends le jeu Tortue Ninja là, qui se joue à 4, l'arcade.
Ah,
là,
ouais,
tu vois Shredder machin là.
Ah carrément. Ouais.
Tu vois duquel je parle?
Oui, complètement. Hein, qui sort en fin d'année, je crois qu'il y a les premiers avis qui sont sortis là. Il a l'air.
Enfin, un moment qu'il doit sortir, ouais. Mais ouais, celui-là. Ouais.
On se fait une émission gamer, sinon Loïc. Bon ben on va.
Allez, Dani, t'es pas au courant, mais on a chié le fil de l'émission.
Bonne soirée tout le monde. Salut.
Je pense que tu vas bien le prendre. Je te connais.
Ouais. Alors voilà, pour finir sur Lego, c'était ça. Et puis vite fait, j'avais envie de parler un peu des romans, les romans que j'ai terminés récemment. J'ai fini la trilogie Legends de Han Solo de Hans et Crispin là, qui sont sortis en 97 et 98. Donc je sais pas si vous les aviez lus à l'époque, c'était vraiment les origines de Solo dans le Legends du coup.
Ah les Legends, si, avec le gros chat là, le Togruta.
Oui, peut-être, je sais plus. Le Togruta.
Non, pas Togruta. Togruta, c'est Togruta, pas une connerie, oui, tout à fait. C'est pas Togruta, c'est les... Ah, mais il y avait un putain de gros matou, la trilogie de Crispin, c'est ça?
C'est ça.
Ah si, il y a un gros chat dedans.
Tu me poses une colle.
Ah, attends, je vais te la ressortir. Ouais.
Je les ai pas lus parce que je suis pas fan de Han Solo. Donc,
pareil, et en fait, c'est pas
trop. Je comprends pas pourquoi ils ont été le chercher dans la guerre des chasseurs de primes.
Bah, ils auraient mieux fait de le laisser dériver dans l'espace, hein, on en aurait été débarrassé. Il n'aurait pas eu de Kylo Ren, voilà. Donc,
déjà,
ça aurait été dommage.
Il n'y aurait pas eu de Eternals du coup, puisqu'il n'y aurait pas eu de.
En fait, ils voulaient utiliser ce crossover pour Redcon, donc Han Solo n'est jamais récupéré. Donc maintenant, à partir d'aujourd'hui, on peut refaire l'épisode 6, 7, 8 et 9, il n'y a pas de souci.
Ah, ça aurait été pas mal. Non, mais je sais pas du tout de quoi tu parles, Tom, sûrement, hein, j'ai dû oublier les passages, quoi, mais c'est une très bonne trilogie, si vous avez l'occasion.
Ouais, je suis en train de chercher.
Il y a beaucoup de liens avec le film, j'ai l'impression que le film a repris énormément des éléments de ces bouquins-là, évidemment, donc ils reprennent, tu sais, la découverte du Faucon Millenium, c'est relativement la même chose, la rencontre avec Lando, avec Chewie, tout ça, c'est relativement similaire, mais ce que j'ai bien aimé, c'est la rencontre avec les persos que t'as pas dans les films, genre Jabba et Boba. Donc il rencontre pour la première fois dans ces livres-là, et c'est assez marquant comme rencontre, et c'est vachement intéressant les relations qui se lient entre ben, Jabba, Boba et Han Solo, quoi. Donc c'était cool, et les romances aussi, parce qu'on apprend qu'il y a eu pas mal ben, d'aventures dans le passé, dont une avec Salazen, là, qu'on voyait dans Dark Empire, les comics. Donc on avait appris dans les comics qu'il y avait une histoire avec eux, et là t'as l'histoire du coup dans ces romans-là, donc c'est les connexions entre œuvres, donc c'est vraiment sympa ça. Donc ouais, je conseille vraiment cette trilogie Legend si vous l'avez pas faite, c'est très très sympa si vous aimez le perso, évidemment. Voilà, voilà.
Et eh ben, le temps que Thomas cherche cette information, je vais faire mon WhatsApp qui va être quand même assez court. À part des lectures, j'ai repris des lectures que j'avais laissées un peu de côté, comme Hors de l'ombre, que je n'ai pas fini. Et puis, dès que je l'aurai terminé, je vais enchaîner sur le volume 1 de la nouvelle trilogie Throne que je n'avais pas fini non plus. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai eu le plaisir, et je lui dis un grand merci de la part de Aude, d'avoir un petit cadeau, puisqu'elle a profité de QC et de la présence de Magali Villeneuve pour récupérer un des marque-pages exclusifs de la convention sur le stand de Panini Comics, et elle l'a fait dédicacer spécialement à mon attention, mais pas que, puisque un autre membre de l'équipe va recevoir son cadeau, hein, Jean.
Oui.
Ça m'a fait beaucoup plaisir, et moi maintenant j'ai un marque-page Star Wars pour lire des livres Star Wars.
Oui, et je me dis,
c'est quand même voilà, c'est quand même pas mal.
Bien. Merci Aude.
Voilà, merci Aude, un grand merci, franchement, et un grand coucou. Donc au niveau des dernières émissions de Star Wars en direct, vous pourrez retrouver donc une émission Quad 9 du 4 mai, où une belle équipe et la présence de notre nouvelle collaboratrice Codelaya vont débriefer ensemble la bande-annonce d'Obi-Wan Kenobi. Également un Star Wars en direct live avec justement la conférence de QC sur ce que Star Wars représente dans nos vies, en présence de Magali Villeneuve et avec une belle brochette de nos collaborateurs également. Un Star Wars en direct express avec le guide de survie célébration numéro 4. Et je vais faire une mention spéciale pour une quatrième émission, l'émission Faut pas décloner, présentée par Aude, où elle reçoit Fabien, donc notre grand amiral Fab du Discord, que je salue au passage, vraiment, que ça fait plaisir d'entendre en vrai sur un sujet très très pointu et qui est traité franchement vraiment de manière très sympathique, et je vous encourage vivement à aller découvrir cette émission. Et donc sur ce, eh ben, on va passer en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc juste avant qu'on rattaque, j'ai trouvé entre-temps la race. Donc ce n'est pas un Togruta, c'est un Togarian. Togarien, on dirait en français. Et en fait, effectivement, ce sont bien des gros chats mastocs qui deviennent un des personnages principaux de la trilogie. Donc Jean me fait oui, donc je pense que...
Oui, c'est ça. Mais oui, mais je suis complètement débile parce que c'est sur la couverture en plus du premier tome, tu l'as, cette race-là sur la couverture.
Et c'était une de mes races préférées à l'époque du Légende parce que j'ai trouvé bien badass. On a ce genre de truc, vous savez, dans les jeux vidéo type League of Legends et tout... il y a souvent dans les jeux vidéo, on a des races similaires, en fait.
On a une race qui était réapparue comme ça dans un...
Ils sont en canon maintenant, donc ils ont dû réapparaître, les Togariens.
Justement, il y a cette espèce de gros chat tigre qu'on trouvait dans les... comment ça s'appelait ? C'est l'ère de la rébellion. Il y avait la rébellion, il y avait la...
Je vais vous dire, j'ai carrément l'air...
C'était l'époque d'après le J.
Et on avec, les trouve dans Throne. Dans Age of Republic, Count Dooku.
Voilà, c'est ça.
Dans Dooku Jedi Lost et dans Throne.
Ok.
C'est ça.
Voilà.
Mmh.
C'est ça. Voilà, donc moi, j'avais le visuel.
C'est revenu, effectivement. Elle est recanonisée.
Voilà. Moi, c'était vraiment le visuel dans le comics que j'avais. Je m'étais dit à l'époque, je me souviens, quand on avait fait l'émission avec Francis, et je me demande si tu n'étais pas là, Thomas, d'ailleurs. J'avais dit, encore une fois, c'est un concept qui fait pas bien Star Wars, d'avoir des gros chats, mais bon. Après, on s'y habitue aussi.
Ouais. Il y a
parce que avoir des gros cochons, ça te pose pas de problème, par contre. Quand tu vas chez Jabba, les Gamoréens, non.
C'est pas pareil, je trouve, ça rend pas pareil. Ça rend pas pareil. Ok.
Ouais, t'avais des panthères aussi dans un landau, je me rappelle.
Des
guerriers panthères, des guerriers tigres et tout.
Des espèces de Black Panther, mais version animale.
Ouais.
Pas version costume.
Ah oui, dans Lando, ouais, tout à fait.
Ouais. Ok, messieurs, on va attaquer, donc après cette petite digression. Donc aujourd'hui. ce n'est pas Jean qui va nous faire le résumé des épisodes, mais c'est Thomas. Et donc, Thomas, nous t'écoutons.
Donc, l'exercice est un petit peu difficile. On me demande donc de faire un résumé court. Je vais essayer d'être bon à cet exercice. Alors, on attaque. Alors là, on se rappelle qu'on pioche un peu dans toutes les séries. On aura deux numéros de Star Wars, la série classique. Donc, toujours avec Charles Soule. Comment ça se passe? On retrouve notre bon vieux Luke qui fait la guéguerre avec Dark Vador. Donc, vous rappelez, il était parti. Donc, je vous le fais la version courte. Il arrive à avoir Dark Vador, en fait, en captant que la planète est tellement gelée que ça nous fait des espèces de grandes vagues qui gèlent immédiatement. Il se dit, tiens, je vais faire un burn. Donc, mes petits coups de frein à main, ça tombe bien, il avait vu Fast and Furious il n'y a pas longtemps. On a une grosse vague qui va et Vador, ce con-là, se prend dedans. Et donc, à la fin, bah, il se dit, je vais le finir. Et quand il lui fonce dessus, il lui tire pas dessus. Donc ça, c'est le premier point. Il peut pas, c'est quand même son papa, donc ça, il n'ose pas. On a un petit point de vue du côté des rebelles qui, eux, sont en panne de Faucon Millenium. Et alors, c'est là où c'est sympa et on voit bien le lien qu'il y a avec la trilogie d'Han Solo, c'est que notre ami Lando, il parle au Faucon Millenium comme s'il parlait à quelqu'un, parce qu'on se rappelle, quand on a vu le film Solo Star Wars Story, que l'âme de L3, qui était un peu son amour de jeunesse en mode droïde, est incarnée dans le Faucon. Donc il lui parle et on se dit, est-ce que quelque part, elle lui file pas un petit coup de pouce comme ça? Voilà, donc je vous fais la version très simple. Hein. Ensuite, on suit également le tout dernier numéro de War of the Bounty Hunter. On se rappelle, la fameuse série où les gens ne savent pas dessiner les huttes et ils font des caca grabouillons à la place. Donc là, il se passe enfin quelque chose puisque les huttes, à défaut d'être mal dessinées, sont très énervées et décident d'attaquer l'Empire pour aller récupérer Solo. Cela dit en passant, on se dit que c'est quand même un petit peu con. Bien évidemment, comme c'est un crossover, ce numéro-là, tout le monde y va. Boba Fett y va aussi, Valance y va aussi. Et donc, tout ce joyeux monde va aller se retrouver à l'intérieur. Nos amis, les rebelles, y vont aussi. On contacte Dark Vador en lui disant qu'il faut revenir aussi. Donc, en gros, on sent que tout le monde peut revenir. Et tout le monde se bastonne. Et au moment où ils arrivent enfin à mettre la main sur Han Solo, Boba nous fait une grosse brèche en fait dans le vaisseau. Pouf, tout le monde est aspiré et surtout le Carbonite Man Han Solo qui du coup disparaît et tout le monde pense qu'il est mort évidemment, mais on n'a pas retrouvé le corps donc certainement qu'il n'est pas mort. Pendant ce temps, Dark Vador revient en mode un petit peu énervé après les Hutts qui n'ont pas vraiment écouté et Boba lui récupère notre ami Han Solo en Carbonite. Alors il faut penser que son jetpack doit être sacrément balèze parce que pour remonter un bloc de carbonite comme ça et son bras, ça doit quand même lui tirer un peu dessus. Mais bon, on est dans Star Wars, tout va bien. Tout le monde rentre à la maison. Les Hutts se sont fait défoncer la gueule. Valance s'est fait trahir par Boba Fett. Han Solo, Leia et Chewie sont en pleine dépression et on voit notre docteur Aphra, on sait pas pourquoi. Et à la toute fin, on nous tease le prochain event, on a Kira qui va chercher les Chevaliers de Rennes, et on nous dit, ça tombe bien les gars, si vous avez envie de racheter 5 tomes qui pourraient se raconter en un seul tome, allez-y. Et donc, nous on est couillons, et bien évidemment on va y aller quoi. Et puis on a un petit doc où Boba nous ramène le fameux Han Solo chez Jabba the Hutt, et donc ça boucle la boucle, ça répond à la question qu'on avait la dernière fois. Par contre, voilà, on ne donne pas encore notre avis tout de suite. On a un petit numéro également sur IG88 où le mec, en fait, s'était fait latter par Dark Vador. Il y a un gars qui vient pour le reconstruire et tout ça pour se faire latter à la fin et repéter à nouveau. Mais voilà, et il se dit, il n'est pas complètement latté non plus, donc il dit, c'est pas grave, je vais me faire réparer à nouveau ou je vais m'améliorer à nouveau. Voilà. Donc c'est une version très simple, donc il se refait péter par Boba Fett et il se dit, voilà, je vais encore m'améliorer. Techniquement, j'ai l'impression d'avoir résumé à peu près toute l'histoire.
Ouais, c'est bien.
Pour avoir fait trop d'efforts pour raccourcir le contenu. Alors, ensuite, on part sur le deuxième Star Wars, le 18, qui est toujours par Charles Soule. On sent quand même qu'il y a quand même un gars au scénario, là, ce coup-là, comme pour le 17. J'ai donné un petit peu un avis, là. Donc on se retrouve en mode dépression avec, avec Leia et Chewbacca, hein, qui se font des câlins, hein, ça, voilà, c'est très sympa. Et puis Lando qui promet à son Lobo de bien évidemment le remettre d'aplomb. Et alors, arrive Lobo écarlate et Kira qui rentre dans le vaisseau. Et donc là, Leia, elle se dit, ah oui, donc c'est l'ex du gars dont je suis amoureux. Donc on se doute que ben, c'est un petit peu tendu. Hein, la couverture l'annonce, hein, ça va être un peu tendu entre les deux. Et alors, on voit que c'est un peu un jeu de poker menteur parce que Lando dit à Leia, attention, Kira, tu peux pas lui faire confiance. Et dans l'échange qu'elle a finalement, Leia avec Kira au sein du Faucon Millennium, Kira lui fait aussi comprendre que Lando, on peut pas complètement lui faire confiance en réalité, puisque lui, il est au courant déjà que Han Solo est toujours vivant. Alors ça, c'est la nouvelle du tome qui est intéressant. Et Kira nous dit, je suis pas une si grosse connasse que ça, parce que moi, dans un sens, ok, je vous ai tous niqué la gueule pour faire des thunes, mais je vous ai donné des billes quand même pour pouvoir sauver Han Solo. Donc voilà, je suis une saloperie, mais une saloperie quand même soft. Donc alors, est-ce qu'elle essaye de se déculpabiliser, on ne sait pas trop, ou qu'elle est encore un peu amoureuse d'Han Solo. Quelque part, ça ne nous regarde presque pas, hein, ce ne sont pas nos affaires.
Hein. Cela ne nous regarde pas.
On paraîtrait qu'il fréquenterait le fucking Blue Boy, mais cela ne nous regarde pas. Et donc, ça s'arrête là. Bon, on sent quand même qu'elles ne sont pas best friends forever, les deux. Hein. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que nos rebelles apprennent que Han Solo est vivant et qu'il va falloir aller chercher, mais Leia nous dit, ok, pas tout de suite, on va avoir d'autres trucs à gérer. Bah oui, on a deux crossovers là, avec 5 numéros de chaque à gérer, donc on va pas aller chercher Solo tout de suite, en attendant de retrouver notre
premier épisode 6. Si je peux me remettre un peu de temporalité là-dedans, c'est que ce crossover se déroule juste après l'Empire Contre-Attaque, puisqu'il était sur le chemin vers chez Jabba, et qu'on a encore 2 ans à combler, je crois, voire même 3, avant le retour du Jedi. Donc, quoi qu'il arrive, effectivement, on n'ira pas tout de suite.
Ouais, voilà. Donc, on va le récupérer. Finalement, on était en dépression parce qu'il nous manquait, mais voilà, on sait qu'il est vivant. Ok, stand-by. C'est vrai qu'il est un peu chiant. On ira le rechercher un moment, le temps que ça mijote un peu de son côté. Et donc, par contre, il y a une information qui est très importante qu'on apprend là-dedans, c'est qu'en fait, elle, après, d'après ce qu'elle nous dit, on ne sait pas si c'est encore, si c'est complètement vrai, mais elle nous dit, voilà, en fait, j'ai des espions partout. Et je peux tirer des ficelles quand je veux. La preuve, tout ce qui s'est passé, les Hutt qui attaquent, c'est parce que beaucoup de Hutt, vous savez, le bodybuilder, il était pour moi. J'ai des espions dans les saloons, j'ai des espions dans l'Empire. Alors ça, c'est quand même dramatique, hein, parce que on se dit que voilà, ça peut être potentiellement, ça peut contrarier les gens. Et on n'avait pas conscience que l'Empire Écarlate était si balèze que ça. Donc voilà, bon, évidemment, ça sert un petit peu le scénario du comics, hein, mais voilà où on en est. On a un petit flashback, on va dire, plutôt sur la jeunesse de Han Solo, où on apprend que finalement, il est pas si méchant que ça, et que une fois même, il y a un enfant qui s'est fait taper, il est venu l'aider. Waouh! Et ça.
Mais elle l'avait déjà dit, hein. Elle l'avait déjà dit dans le film Solo qu'il n'était pas.
Et si on l'avait pas compris, on a carrément 5 pages qui nous montrent Han Solo qui vient défendre un gosse, en mode Wikipédia, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 secondes et qu'est-ce qu'ils se sont dit précisément. C'est le moment, en fait, le seul moment où, avec Charles Soule, je me suis dit, effectivement, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, on a fini sur cet épisode-là. Après, qu'est-ce qu'on a le suivant, on passe sur
Docteur Aphra.
Donc Docteur Aphra, où il ne se passe, pour ainsi dire, quand même pas grand-chose. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais
si.
Je vais laisser quelqu'un faire le résumé parce que
non. Alors Aphra en fait récupère donc le collier pour lequel elle était venue sur le Vermillon, et en fait elle va réussir à se transformer en Saiyan God grâce au pouvoir de ses copains. Et on a quand même un crossover avec Dragon Ball. Je suis vraiment choqué, Thomas, que tu ne l'aies pas relevé.
Alors moi, ça m'a fait penser plus à Indiana Jones, tu sais, en mode je me rends compte du pouvoir des artefacts.
Ouais, alors en fait, voilà, elle est attaquée, elle récupère le collier, mais évidemment, ils doivent se sauver, donc ils font tous équipe, tous les quatre, Sana, Ariol, elle et Lucky. Et puis ils vont tenter de s'évader, mais il y a Destik qui vient leur mettre des bâtons dans les roues, et à ce moment-là, donc tout simplement, Aphra se rend compte qu'il y a un artefact qui détient un pouvoir surpuissant. Donc c'est un pouvoir technologique, ce n'est pas de la force, mais qui va lui permettre de manipuler les esprits de Destik pour éliminer, pour qu'elle s'élimine elle-même et qu'elle élimine les gardes. Oui, Jean ?
C'est un artefact Sith, si je me trompe.
Ouais, mais il est bien dit que ça fonctionne à base de technologie et que tout le monde peut l'utiliser, même ceux qui ne sont pas forceux.
À moins que Dr. Aphra ait la force. C'est aussi la question.
À moins que Dr. Aphra ait la force. En tout cas, voilà, ils parviennent à s'échapper, blablabla. Et elle va brancher donc le collier, récupérer les informations qui sont à l'intérieur et découvrir également que l'aube écarlate a des espions partout. Dans l'Empire, dans les corporations, dans les syndicats du crime et même à la rébellion. Exactement.
Oui.
Voilà.
Ensuite, on repart sur un autre numéro d'une série principale avec notre chasseur de primes Valence qui s'est fait trahir par Boba Fett, qui a la gueule complètement explosée et qui se retrouve face à des armées de Stormtroopers. Et on se dit, mais comment va-t-il faire ? Rien de spécial, pas de twist scénaristique, juste il leur pète la gueule. Et donc, moi, je m'attendais à un retournement de scénario, une parade un petit peu à la Naruto, tu vois. Ah, mais il est coincé, comment est-ce qu'il va faire ? Le gars est super intelligent, il a trouvé la combine. Non, il leur lâche la gueule, tout simplement. Alors que le gars est sur le point de mourir, on lui annonce, attention, ton rythme cardiaque va calancher. Non, c'est pas grave, je repars. Je lâche la gueule à tout le monde et j'appelle les copains chasseurs de primes. Les mecs, rentre dans le hangar, vas-y que je te saute sur Zuku, ce qui me récupère. Heureusement, Dark Vador arrive un petit peu, fait la force et le ramène au garage. Et il te le reboot pour lui dire que tu es à nouveau mon esclave, mon fils. Voilà. Résumé assez court, ça va ?
Non, c'est bien.
Et on termine par le dernier, le fameux Dark Vador. Et on retrouve notre fameux Ochi de Bestoon. Et on retrouve un vrai Dark Vador. Un Dark Vador qui poutre un peu. Donc voilà, on sent qu'il n'est pas content. Enfin, il va la télé hot. Sans pitié, voilà. Donc là, on y va, vas-y. On a retrouvé le vrai Dark Vador qui l'a de tout le monde. Et puis, on a notre fameuse Slymour. Donc, qui a un pseudo-procès. Dark Vador qui va pour la latter enfin, et Palpatine qui dit tape pas tout de suite. Et on comprend en fait que finalement, Luke n'a pas été tué aussi parce que Palpatine était derrière pour manipuler un peu, pour pas que Luke soit tué tout de suite. J'ai trouvé ça assez cohérent, parce que ça revient au plan de Palpatine, qui lui veut garder Luke pour remplacer Dark Vador, et Dark Vador qui finalement tue pas non plus complètement Luke, parce que il veut le remplacer par Palpatine. Donc voilà, c'est tous des sites, c'est tous des crevures, et logique, on veut tous se trahir, donc on cherche une triangulaire hein, pour dégager quelqu'un, c'est complètement logique. Et alors à la fin, on a notre équipe Ochi de Bestoon, qui va voir ses copains les assassins, et ils ont attrapé Kira, et en fait, ils sauvent Kira, donc on comprend, ils ont leur fameux slogan, hein, tous pour un pour tous, mais en mode aube écarlate, et on comprend qu'en fait, Ochi fait partie de la team Empire écarlate, moi c'est ce que j'en ai compris, et encore une fois, les scénaristes finalement présentent des enjeux assez forts au sein de la continuité Star Wars, à voir s'ils vont bien s'en débrouiller, s'ils vont pas nous amener des grosses incohérences, parce que là ils arrivent à nous relier l'épisode 9 avec Han Solo par exemple. Voilà pour le final, en attendant la suite hein, qui nous fait tous envie sur les chevaliers de Rennes. Allez, on y va.
Alors, t'as vu, Loïc, on va l'avoir, notre Secret Invasion,
oui,
parlait
oui,
la semaine dernière.
Bien sûr, on n'est pas loin.
Ouais.
Alors, moi, je suis enfin un peu content d'avoir lu des choses qui se passent dans un des volumes de cette série. C'est-à-dire que là, il y a un peu de scénario. Alors, certes, les wagons sont accrochés. On a quand même, sur plusieurs épisodes, on voit quand même encore la même chose sur plusieurs pages, mais globalement, on va quand même avoir un développement de l'histoire. Et c'est encore une fois frustrant de se dire que tout ça aurait pu être largement résumé, allez, peut-être pas en un volume, mais peut-être en deux volumes, en deux, voilà. Je veux dire, moi, je retiendrai de ce crossover le volume 1 et le volume 5.
Absolument.
Voilà, donc c'est vraiment pour dire. Et c'est vrai que dans ce volume, il se passe quand même des choses intéressantes. Il y a quand même deux choses qui m'embêtent beaucoup. On a donc deux grosses incohérences majeures que j'ai relevées. Donc la première, c'est quand justement Luke dit à la surface de Jekara, bah, les vagues, elles ont, l'eau n'a même pas le temps de retomber dans la mer, qu'elle a déjà gelé. Donc, comme tu l'as dit Thomas, bah, on va faire un petit piège à Dark Vador pour pouvoir l'empêcher d'utiliser son TIE Fighter. Sauf que Dark Vador surgit lui-même de l'eau. Son TIE Fighter était dans l'eau. Donc, en toute logique, en sortant de l'eau, il aurait dû geler sur place et donc n'aurait même pas pu suivre Luke. Et il aurait dû s'enfoncer dans la mer et probablement périr noyé. Donc ça, c'est la première chose qui m'a embêté. Alors, on n'est pas sur de la grosse
incohérence. Moyen d'accord. Hein. Parce que, en fait, l'eau, elle gèle. Le moment où il sort, si tu veux, elle reste en mouvement. Et après...
Quand elle retombe, elle est en mouvement aussi, Thomas.
Ouais.
Il s'est trompé.
Ouais. J'essaie de voir le truc, mais ça tire un peu dessus quand même, tu vois. Il y a la force du truc, quoi, je sais pas.
Alors.
Donc, par contre, on peut penser que l'eau est gelée au moins en surface et que.
À minima. Ouais. Alors, la deuxième incohérence, c'est quand Boba Fett donc, se débarrasse comment il s'appelle, de Valance. Donc j'affiche à l'écran pour ceux qui ont l'image, on a Valance qui est complètement détruit, qui est à terre avec vraiment les circuits dans tous les sens, etc. Puis quand on va réinvestir sa série à lui, eh ben, en fait, on va se rendre compte qu'il n'est pas si caissé que ça. Ouais. Il a juste un petit peu au niveau du cœur, c'est un peu compliqué, mais finalement, voilà. Donc ça, c'est les deux choses qui m'ont gêné. Donc je chipote un peu parce que finalement, ce que j'ai lu m'a satisfait. Comme tu as dit, Thomas, on a un Vador qui redevient Vador. À la fin, quand en fait, Palpatine lui demande d'aller traquer les espions de l'Aube Écarlate au sein de l'Empire, et on le voit donc avec cette magnifique planche face à une armée d'impériaux avec des Star Destroyers en fond, et là on ressent enfin le Vador.
Ouais, on se croirait en
Russie. Ouais, voilà. Et on ressent vraiment le Vador. Et j'espère qu'après ces épisodes, on va pas le retrouver. Alors à la fois dans le prochain crossover, mais dans la série globale Dark Vador, j'espère qu'on va pas le retrouver à nouveau en position de faiblesse, etc. Ok, c'est bon. Pour moi, là, il a regagné un peu ses galons face à l'Empereur. L'Empereur l'a laissé faire son petit truc. Il l'a rappelé au dernier moment en tirant sur la laisse en disant « On tue pas Luke Skywalker, j'en ai encore besoin. » Donc je trouve que tout ça c'est assez cohérent, ça s'imbrique bien. Moi, la fin de certains épisodes, j'ai été vraiment soufflé, notamment l'épisode Bounty Hunters, quand Valance se réveille au service de Vador. Alors là, ça m'a tout de suite conquis, et j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller lire la suite, de savoir comment Valance va sortir de cette situation. On est sur un niveau de cliffhanger qui est assez correct, vraiment vraiment très sympa. Mais de même aussi ce qu'on a dans la série Star Wars avec le groupe de rebelles qui est coincé dans le Faucon Millennium, je trouve que ça ressemble vraiment à ce qu'on connaît. La dynamique des personnages, elle est totalement différente de ce qu'on a lu les trois derniers mois, et c'est vraiment ce qu'on a dans les films. Donc j'étais content, on a retrouvé les vrais personnages, et après avec l'arrivée de Kira, il y avait vraiment quelque chose d'un peu inédit et qui était vraiment pas dégueu à lire, parce que ce personnage, finalement, il peut être intéressant, comme tu l'as dit, en triangulaire avec Leia. Et alors, je sais pas ce que ça va donner la suite avec Crimson Reign, mais là, en tout cas, ça m'a fait plaisir, au moins déjà qu'ils se rencontrent, qu'il y ait de la discussion, qu'il y ait un peu des enjeux qui soient posés pour la suite. Et voilà, tout ça, c'était quand même assez réussi. Les épisodes de Vador, je les ai trouvés réussis, je les ai trouvés bien dessinés, mieux que d'habitude. Je trouve qu'il a passé un cap pour dessiner son Dark Vador, qui est quand même assez hallucinant. Donc j'espère que ça va continuer sur cette qualité. Et alors l'épisode de War of the Bounty Hunter, pareil. Alors là, on a vraiment, comme tu disais Thomas, on a tous les groupes de personnages qui vont se rejoindre enfin. Alors c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu gros que tout le monde puisse monter aussi facilement sur l'exécuteur.
Ah, c'est ça. Ouais.
Voilà, parce que voilà, bon bah on peut Valance et Boba Fett. Bah, Boba Fett utilise le code qu'il avait dans l'Empire contre-attaque, donc il peut monter. Les rebelles, eux, c'est via des espions de l'Aube Écarlate. Donc je trouve que c'est un peu facile.
C'est un peu le bal du village, quoi.
Voilà, mais je trouve que la dynamique est intéressante. Après, on n'est pas encore à une infiltration près dans Star Wars. Je veux dire, c'est pas si grave. On en a eu déjà une palanquée.
Ouais, mais d'habitude, ils mettent au moins une armure de Stormtrooper. Là, ils sont là, allez, on va pas s'emmerder.
Ouais,
c'est tranquille là-bas. Ouais. C'est
pas, pas forcément, pas forcément. Dans Rebels, ils mettent pas forcément toujours une armure de Stormtrooper. Mais voilà, en tout cas, mon avis général, ça va être ça. J'ai bien aimé le one-shot sur IG-88. Tu l'as un peu descendu, Thomas. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose, mais par rapport
à ce personnage... de raconter le scénario. Alors,
non, mais c'est...
Dessins, hein.
C'était exactement ça. Mais j'ai trouvé que... Ça racontait quelque chose de sympa par rapport au personnage qui, en plus, je suis pas fan de ce personnage, donc j'ai été quand même tenu en haleine au fil de la des pages. J'ai trouvé que le dessin était efficace, donc c'est sûr qu'on n'est pas sur du super quali, mais ça fonctionne bien dans cette planète décharge un peu pourriture, etc. Donc je trouvais que ça fonctionnait bien, et le fait ensuite qu'ils disent bon bah je suis pas assez fort. Je vais m'entraîner à devenir plus fort et devenir un super Saiyan. Ben finalement quelque part pourquoi pas. C'est un robot, il peut le faire. Il a aucune raison de pas le faire en fait. Et si c'est le moyen de réintroduire le personnage peut-être dans une autre époque, genre après le premier ordre ou même 100 ans après, en disant ouais c'est un vrai personnage badass, je me dis que ça pourrait vraiment être sympa. Donc voilà pour mon avis général. Donc messieurs, je vais vous passer le micro.
Ah, vas-y Jean, j'ai commencé.
Right. Déjà, je vais essayer de rebondir sur un peu ce que tu as dit. Attends, ouais, petit hors HS qui a rien à voir là, mais dans le jeu Lego justement, t'as un perso que tu peux débloquer où c'est le petit Han Solo en carbonite, donc qui marche dans sa carbonite. Ça, je trouve ça rigolo. Mais comment on le voit bien. Ouais, c'était pas mal. Ouais. Alors, comme toi, Loïc, le Valence éclate. Alors, l'eau, par contre, aux F total. Hein, moi, les incohérences avec l'eau, oh, ça m'a pas trop choqué. Je me suis dit la même chose.
Il y avait un effort de scénario, quand même, d'amener quelque chose de nouveau. À l'inverse de Valence, qui, pour s'en sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout le monde.
Non,
c'est la petite incohérence sur l'eau que le mec qui, bah, juste, il est super fort, il met des coups de
poing. Ah non, ça, moi, je trouve que ça correspond au personnage qui est badass et qui tape sur tout ce qui bouge. Non, c'est plus le fait que tu le vois dans une série où il est complètement éclaté, justement, la fois où tu vois le torse, enfin, vraiment, la cage thoracique totalement éclatée.
Ses bras sont tombés, quoi.
Ouais, et ça m'a limite choqué, tu vois sa tête, il est complètement au bout de sa vie, là vraiment, mais littéralement, parce que tu dis, il va pas réchapper à ça, quoi, et c'était assez choquant de tourner la page et de voir qu'à Boba, il a vraiment aucune pitié, quoi, il y va à fond, et c'est cool, tu vois, mais quand tu vois ça, voilà, le numéro de Bounty Hunter, et tu revois Valence avec juste un pet au niveau du cœur, comme tu disais, là, j'étais là, ah oui, d'accord, ils sont pas
est-ce
trop...
Est-ce que ça vous a pas choqué que Boba soit une crasse à ce point-là, alors que dans la série... C'est un mec, il a des principes, il a des valeurs, hein, les Tusken, Brother.
Je me dis, ça se passe pas au même moment déjà.
C'est avant.
Et là, c'est après le Sarlacc, tu vois. Donc moi, je me dis, le Sarlacc, ça l'a. Ça l'a trauma, quoi.
Est-ce que si on met Poutine dans le Sarlacc, tu crois qu'il va devenir sympa?
Je pense que Thomas nous fait une poutinite aiguë.
Ah, désolé les gars, je voulais pas faire de politique. Hein. J'accepte votre point de vue.
Ah, mais tu voulais parler donc de ce merveilleux plat que nos amis...
Oui, exactement.
Effectivement.
Ouais, excellent.
Typique du Québec.
Ouais. Vas-y Jean. Oui.
C'est magnifique, c'est super bon en plus. Alors moi, ce que j'ai bien aimé, alors tu me connais, hein, je suis assez enthousiaste niveau lité, je suis pas très critique, on va dire. Moi, ce que j'ai déjà bien aimé, c'est le fait que tu lis, contrairement aux numéros, les autres volumes qui étaient un petit peu fouillis par moment, là, ce qui est bien, c'est que quand tu enchaînes les numéros, c'est relativement chronologique, on va dire. Oui. Donc ça, les événements se déroulent à la suite, et du coup, c'est plus facile à lire. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa, on va dire, quoi. C'est. Alors qu'avant, c'était plus la même scène que tu revoyais de différents
points
de
vue
à la actuelle, quoi. Donc ça, c'était plutôt cool. Par contre, ouais, je trouve ça quand même dommage que le seul petit point, s'il fallait critiquer un truc, que je trouve ça dommage, c'est quand même la guerre des chasseurs de primes, tu vois. Et il y a énormément de combats, de fights, et t'as aucune vraiment conséquence dramatique, quoi. T'as personne vraiment qui meurt là, tu vois. Je pensais que Valence allait vraiment y penser. J'aurais bien aimé, tu vois, que Valence crève là. Et sa série s'arrête, quoi. Ça aurait été logique, et puis voilà, quoi. Puis tu vois pas après. Et non, en fait, Valence sera.
J'irais même plus loin que toi, Jean. C'est que c'est une série, la guerre des chasseurs de primes, et finalement, c'est pas tant que ça, les chasseurs de primes qui se font la guerre, parce que c'est surtout l'histoire de Vador et de la rébellion, encore une fois.
C'est juste la présence des chasseurs de primes autour, c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment d'importance à part Boba Fett et Valence. C'est vrai que les autres sont... C'est vrai. Mais ouais, le manque ouais, de drama, de mort, en fait. Hein. C'est pareil, Moore, à la fin, tu vois, moi, j'aurais bien voulu que Dark Vador ben, lâche.
Là, on avait envie de se dire que c'était bon.
Bah, comme ça, bah, quand il y a une conséquence, on va dire, de ses actes, parce que...
Bah, c'était le bon moment, en plus. C'était le bon moment. C'est que, en plus, enfin, je veux dire, Vador, c'est le gars qui va te zigouiller sans procès. Donc, il fallait absolument le laisser tuer Sly Moore, quoi. Sauf si Palpatine a un plan pour lui.
Ouais, moi j'aurais bien vu zigouiller là, mais bon, ils zigouillent quand même tout le clan Hutt, donc il y a au moins ça, tu te dis, bon, pour eux il y a quand même une conséquence, c'était assez sympa ça.
C'est le conseil des Hutt qui est zigouillé. Ah oui, et donc le dernier représentant du conseil, donc celui qui a la main mise sur tout le cartel des Hutt, c'est du coup Jabba.
Ouais, il s'en sort bien, et là bien vu, j'ai trouvé.
C'était bien vu.
Ouais. C'est sympa. Non, mais voilà, après, de manière générale, ça va, moi, du plutôt sympa. J'ai trouvé les Star Wars plutôt sympa, à du très très bien, genre le War 5, là, la mini-série, donc le dernier volet, j'ai trouvé très très bien, justement, comparé aux anciens. D'ailleurs, tu parlais des dessins, Tom, mais au début, j'ai vraiment cru que c'était plus Ross au dessin, tellement c'était tellement différent.
Oui, j'ai eu des parts aussi. Et j'ai fait comme toi, genre, j'ai été vérifié, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas Luke Ross. Et puis après, tu regardes, tu dis, si, c'est Luke Ross.
C'est ça.
Plus appliqué peut-être sur cet épisode.
Ouais. Et notamment sur les Hutt. Du coup, tu parlais des Hutt, mais ils sont pas mal. Il y a beaucoup de vaisseaux
dans. Ils sont moins pires. J'irais pas dire qu'ils sont bien.
Ouais. Alors non. Ouais, moi, je dirais qu'il y a des plans où ils sont très corrects et il y a des plans où ils sont comme d'habitude. Mais ça, globalement, pour le reste, c'est quand même beaucoup mieux dessiné.
C'est ça. Alors, apparemment, il y a un autre gars avec lui comme le numéro précédent, mais j'ai l'impression que pour les close-up des Hutt, quand ils sont près de la caméra, ils sont bien faits, ils sont bien détaillés, ils sont réalistes. Quand il y a un plan large avec plein de Hutt, là, il a fait l'arrache, comme d'habitude. Et niveau visage, c'est toujours pas ça. Je sais pas, il y a 2-3 visages de Leia. C'est toujours pas ça, quoi. Ross, il a vraiment du mal. Je critiquais sur Leia et Kira dans le numéro précédent. Là, c'est surtout Leia. Là. Je
non, sais c'est
plus
vrai.
Quelle case c'était. C'était pas ouf. Mais par contre, niveau vaisseau, il est très très bon. Hein. Niveau vaisseau, les batailles spatiales sont bien, en fait.
Mais même le découpage, c'était vachement cinématographique dans l'idée de cet épisode, je trouve.
Ouais, complètement. Ouais, complètement. Et au niveau des couleurs, alors, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des couleurs très pastel qui faisaient très Dark Empire, justement. Et là, je me suis renseigné. Ouais. Donc là, il y a la coloriste, comment ça s'appelle ? C'est Rachel Rosenberg qui a la couleur et c'est le premier qu'elle fait de la série et ça se voit là, tu vois vraiment sa patte. Et elle, ça se voit direct, c'est très flashy, c'est très, très coloré, on va dire, et plus trop pastel comme avant. Ça me rappelait les numéros d'Afra parce qu'elle a fait des numéros d'Afra, c'était coloriste et ça faisait justement très flashy comme ça, elle est très très colorée comme.
Là, je réaffiche donc la case où les Hutt attaquent le Superstar Destroyer. C'est vraiment flashy. Là, on ressent la bataille spatiale, quoi.
Elle est très très sympa ce splash page. Donc ouais, niveau couleur et dessin, là, c'était plutôt pas mal. Et donc, comme tu disais, le one shot IG-88. Moi, je te rejoins aussi, Loïc. Très bonne surprise. Alors c'est marrant, tous les one shot, je t'attendais rien fois, t'es surpris, quoi.
C'est fou. Hein. Donc,
C'était plutôt sympa. Et tu vois encore une fois la présence de Deva, donc là, la fameuse alien avec des plumes, là, qui est vraiment dans tous les one-shots, j'ai l'impression.
C'est la Nick Fury des one-shots de chez Jabba.
Non, c'était vraiment sympa. Et puis, j'aime beaucoup le fait que la structure du début, je pensais vraiment que tout le thème aurait été comme ça, ça aurait été sympa. Mais bon, c'est qu'un tiers, t'as 10, 13 pages où t'as pas de dialogue du tout, c'est que de la. C'est que des pensées de IG-88, du coup, t'as zéro dialogue. Je trouvais ça le petit truc à souligner. Et l'intro, pareil, du gars qui répare, la RB-919 qu'il répare, qui se fait zigouiller direct. Non, c'était pas mal, quoi.
Et puis,
il fait très tie-in avec les autres, donc avec le Boba, le War 3 et les Star Wars, parce que tu vois, là, le point de vue de Boba qui arrive sur Tatooine pour livrer... T'avais un petit passage que t'avais pas dans le War of the Bounty Hunter 5, et c'est t'as un petit peu l'atterrissage du Slave One et comment il va essayer d'amener la carbonite à Jabba, et là tu vois que IG-88 il essaie de lui mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça amènera à rien pour lui, mais c'était sympa de voir ça.
Oui, c'est-à-dire que jusqu'au dernier moment, au moment de la livraison, il y en a encore un qui vient l'emmerder, quoi.
Qui vient l'emmerder, ouais, jusqu'au bout, quoi. Il aurait été emmerdé jusqu'au bout. Et donc le Afra, moi j'ai trouvé très cool, mais je serais jamais objectif sur un Afra, donc là je passe, moi j'ai adoré. C'est toujours pareil, c'est...
Donc pour ceux qui pourront avoir l'image, j'affiche l'image qui m'a fait penser au Super Saiyan God, où elle devient rougevoyante, avec cette aura qu'elle a au-dessus, les cheveux qui se lèvent. Donc c'était un peu l'épisode What the fuck, je trouve, depuis le
D'ailleurs, le style fait très manga, j'ai trouvé aussi. Hein.
Ouais.
Ben, on le disait
dans le
souvent
rythme,
à chaque
dans
fois.
Dans le dessin, hein. Moi, ça va un côté manga pour moi.
Moi, à chaque fois, moi, je te dis, ce série Afra en général, l'autrice a des influences manga évidentes, quoi, que ce soit au niveau même dessin et scénario, c'est très très manga, quoi. La structure et tout, là, l'histoire avec Ariol et Lucky, tout ça, ça fait très très.
Et la rapidité, le rythme dans
ouais, et ça, c'est aussi vite qu'un manga d'ailleurs.
Oui, ouais, complètement. Bah, oui, c'est très rapide à lire, exactement. Et le côté what the fuck, comme tu dis, ça fait très. Faut éviter les grossièretés, du coup, non, faire gaffe à ce qu'on dit. Ouais, le côté un petit peu, comment tu dis en fait, en mode poli.
le côté un peu incroyable.
Des émissions avec Sylvain, ça choque personne. Hein.
Non. Ouais. Alors, what the fuck, c'est pas un gros mot.
Non, c'est parce qu'on a eu quelques soucis avec YouTube, j'ai vu quoi, dans le fil de. Bref, et du coup, à ce côté-là, moi, je trouve que ça fait très Afra, du coup, depuis le début de la création de ce saga-là, c'est toujours des numéros qui vont très, voire trop loin pour certains, et là, c'est encore le cas, quoi. Donc, elle devient Super Saiyan, pourquoi pas. Et justement, ça révèle une personnalité d'Afra qu'on voyait jamais, tu vois. C'est que là, elle va vraiment, elle est là pour buter ses ennemis, quoi. Elle allait vraiment, je crois qu'elle les empoisonne carrément, hein. Qu'elle les laisse.
En fait, c'est Destiny qui a des espèces de shurikens empoisonnés. Et elle va donc influer son esprit pour qu'elle les retourne et qu'elle se plante avec. Donc elle n'est pas morte.
Non.
Elle est empoisonnée probablement qu'à mon avis elle a l'antidote et qu'elle va se sauver de la situation et qu'on va la retrouver dans le prochain crossover.
C'est ça. Ouais, elle lui dit, t'as 10 minutes pour te mettre l'antidote.
Exactement.
Sinon,
c'est ça.
Et d'ailleurs, Destiny, que je voudrais en parler vite fait, parce que c'est un personnage qui était assez récurrent dans ce crossover et dans Bounty Hunter et Afra, là, dernièrement. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais en faisant des... Parce qu'on n'en apprend pas des masses hein, sur elle, hein, sur sa vie, tout ça. Et sur le Wookiee, là, ils disent que c'est une Datomirienne, du coup, une fille des Night Sisters.
Ah, d'accord.
Donc, c'est ça. Ouais,
peut-être qu'on va l'apprendre après, alors, ça.
D'accord.
Peut-être, hein, je sais pas.
Je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, c'est parce que oui, en lisant en VO, est-ce que j'ai vu ça ou pas. Mais il y a un moment où dans le passé, je sais plus dans les numéros précédents, où elle se démasque en fait, et tu vois vraiment la gueule qu'elle a. Et du coup, moi, ça me fait beaucoup penser. Alors, il y a un mix entre je sais pas, elle faisait très un ninja de la main, elle serait très bien dans un Daredevil, tu vois, par exemple. Moi, je la vois très bien dans un comics Marvel Daredevil, ou dans un Mortal Kombat, tu vois. Je la vois la Kitana ou Milena, là, avec leur espèce de masque ninja, là. Et je la vois très bien dans ce genre-là. Et d'ailleurs, justement, elle a donc. Un petit point de ressemblance avec Milena de Mortal Kombat, justement, il y a une mâchoire un petit peu particulière, on va dire, on va pas trop dévoiler si jamais c'est dévoilé par la suite. Mais ouais, c'est un personnage qui m'intrigue, quoi, qui est pas passionnant plus que ça, mais qui m'intrigue, tu vois, et que je suis content de revoir à chaque fois. Donc voilà, et pour finir, ouais, le Bounty Hunter, donc très sympa, moi j'ai beaucoup aimé, alors, comme d'habitude, action, mais les dessins excellents, toujours les mêmes, hein, toujours les super, et le cliffhanger de fin qui était, comme tu disais, Loïc, surprenant, très surprenant. Mais d'ailleurs, toute la fin où il essaie de rejoindre le vaisseau, donc de ses potes de Tonga et tout. Alors ça c'est cool aussi, que ce soit pour Valence, enfin pour Bounty Hunter et Dr. Afra. Vous rappelez les histoires parallèles des personnages Joseph là, de Ariol Lucky et là de Tonga et de sa copine. Là du coup comme ils rejoignent un petit peu le groupe principal, là on a une histoire globale qui est pas séparée en deux histoires séparées. Là c'est vraiment tout le groupe se réunit et je trouvais ça plus intéressant du coup. Passionnant que ce qui avait été fait avant en fait. Donc je sais pas si vous avez ressenti la même chose, mais ouais, le groupe, tout ce qui est Tonga et sa cops, et donc qui est avec Zuccus et comment il s'appelle, les Bosques aussi, donc tout le monde est réuni pour essayer de sauver Valence. Mais là j'ai pas mal aimé aussi, il y a une espèce de tension où Valence essaie de se projeter dans l'espace, essaie de rattraper Zuccus, il arrive presque et il se fait arracher le bras par Bador, c'était assez trashouille et plutôt jouissif, on va dire, assez violent. Donc ouais, super sympa ce numéro. Et le Dark Vador, ouais, très sympa aussi, mais pareil. Ce qui est rare hein, pour les Dark Vador, normalement, c'est un peu les numéros qui pêchent. Hein, chaque fois, on le critiquait dans ce sens-là. Et là, celui-là était très très sympa.
Comme
tu disais, un Vador tout en puissance. Je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais le massacre du conseil Hutt par Vador, on le voit dans ce numéro-là. Et c'est vraiment très très sympa. Et donc, le fait que beaucoup étaient en fait un allié, un Skrull de Crimson Dawn, on va dire. Voilà, donc non, très très sympa. Et le final, le cliffhanger avec Ochi aussi, très surprenant. Donc ouais, des bons cliffs, des bonnes histoires. Donc ouais, un bon volume de Bounty Hunters, là. Très très bon.
Alors, moi, me concernant, je me suis fait la même remarque que Loïc, à savoir qu'en fait, ça aurait pu tenir en deux tomes et ça aurait été bien mieux. Parce que faut bien imaginer le gars qui va vouloir le relire, qui se dit, putain, je vais me taper 200 pages x 5, 1000 pages pour qu'il se passe pas grand-chose. Ça pique un peu. Je pense que sur un one-shot, même limite, on aurait pu tout tenir dessus. Je pense que ça aurait été vraiment très, très bon. Mais là, il y a de l'économie de scénario quand même plus d'une fois. Et très franchement, pour ceux qui ne l'ont pas acheté, si vous nous écoutez, moi, je déconseille l'achat. Très franchement, je pense que ça peut valoir le coup qu'un copain vous le prête, mais moi, j'achèterai pas. Et c'est pas de la faute de Panini, hein, là, c'est juste les éditeurs. Donc,
non, parce que d'autant que Panini a fait un effort de repositionnement des épisodes, puisque on l'avait déjà dit, mais on peut le répéter, c'est que en VO, l'ordre de lecture était totalement différent. Et pour l'avoir repris...
Pas totalement, juste avec quelques différences.
Il était un peu différent. Et moi, pour avoir essayé de les suivre dans l'ordre de lecture américain, j'ai fait l'essai sur les premiers volumes.
Ça marche pas forcément.
C'était beaucoup moins fluide, vraiment. Donc là-dessus, gros chapeau à Panini.
Par contre, comme vous l'avez dit, ça suit bien. Alors, moi, j'ai quand même trouvé le tome, là, si on considère le tome Panini, inégal. À savoir le début très très bon, en fait... Et je crois que le point commun, c'est quand même le scénariste, à savoir, dès que Charles Soule est aux manettes, quand même, ça tape plus dur, quand même. Et j'ai trouvé que les personnages étaient très vrais. Je trouve que c'est toujours très intéressant, Lando, ils ont fait pas mal de liens entre les différents films, et ça, je trouve que c'est bien. Le personnage de Lando, il est intéressant, parce que il y a tout un questionnement, à un moment, sur la notion d'être une bonne ou une mauvaise personne. Ce questionnement, il arrive sur Lando, il arrive aussi sur Kira, et on sent qu'il y a des jeux de dupes, en fait, de la part de Lando. Il n'a pas encore bien défini qui il était, tout en étant
on rappelle, il faut rappeler qu'il avait balancé les informations à Jabba au début du crossover. Hein.
Bah, tout à fait, c'est d'ailleurs ce que Kira rappelle à Leia en disant « Attention, lui, il n'est pas clean, elle lui donne une base pour aller chercher là-dessus. » Et je trouve que là-dessus, c'était bien pensé. L'autre élément à rajouter, moi, qui m'a bien plu sur Lando, c'est que, effectivement, à la base, c'est quand même une crapule, un peu. À la base, c'est un mec un peu profiteur, qui se retrouve un peu coincé à un moment, parce que le lien d'amitié avec Han Solo, ça le touche un peu, et on sent qu'il est un tournant de sa vie où il se dit, ouais, je vais peut-être devenir quelqu'un d'autre. Autant Han Solo est, manifestement, est quelqu'un à bon cœur, mais qui est caché sous un masque de beauf, autant Lando est et a priori plutôt un gros profiteur caché sous un masque de séducteur. Donc c'est vraiment l'inverse, en fait, et on sent que là ça va switcher, mais qu'il y a encore du boulot pour qu'il devienne ce qu'il est. Néanmoins, il a quand même des valeurs, ce personnage, donc c'est intéressant. Et on voit bien que on pourrait dire qu'il y a une espèce de racisme contre les droïdes, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, et on sent que lui, par contre, il a cette ouverture d'esprit que les autres n'ont pas. Et ça fait partie de ses valeurs, c'est-à-dire que le gars, il est ouvert sur la cause des droïdes. Et on le voit bien, parce que du coup, c'est quelque chose d'important pour lui, et qui est réutilisé tout le long, en fait. Même Kira lui rappelle, ouais, passe le bonjour à L3, donc il y a vraiment des connexions entre les films, les différents films, les différents Star Wars Story. Donc là, je trouve que Charles Soule, il fait du très bon boulot, parce qu'il sait très bien caractériser les personnages, et c'est intéressant ce qu'il raconte. Je trouve que il n'y a pas que de la baston. Alors moi, du coup, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Là, l'épisode de Bounty Hunter, c'est juste de la baston, et Kira, c'est Docteur Aphra, c'est. Enfin, pour moi, ça fait pas Star Wars. Enfin, je suis pas dans du Star Wars quand je lis ça. Autant au tout départ, quand elle était en mode archéologue, je trouvais ça bien, mais là, enfin, je suis pas dedans. Le IG-88, pour moi, il sert à rien. Quoi. Enfin, vraiment. Alors c'est rigolo de voir un perso qu'on connaît et de le voir tuner, mais sinon, enfin pour moi, ça n'apporte rien. Et le Dark Vador, ok, on a un Dark Vador qui est un peu plus cool, mais finalement, bon, c'est anecdotique. Donc, à mon sens, le seul vrai truc là qui tient la route, c'est les histoires de Charles Soule. Et par contre, quand j'ai commencé le tome, je dis waouh, ça va partir fort, et ça redescend tout de suite dès qu'on a les autres scénaristes. Et c'est ça que je reproche un peu. Et moi, personnellement, j'invite pas les gens à acheter ces tomes-là. Je trouve que c'est en dessous. Voilà un petit peu pour mon avis. Alors, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas passé un bon moment. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que le fait qu'on ait ces émissions là, qu'on se remette un peu à faire du lité pour en parler tous ensemble, eh ben ça nourrit une certaine dynamique. C'est-à-dire que je pense que tout seul, j'aurais lâché l'affaire en fait. Et le fait de se dire allez, on va se retrouver, on va en parler, eh ben ça me booste en fait. Et donc pour ça, je trouve que c'est vraiment cool.
Voilà. Ben, tant mieux si ces émissions ont pu servir déjà à ça, c'est cool.
Et par contre, je suis très impatient d'avoir le Crimson Rain.
Ouais.
Oui, donc bah la deuxième partie de.
Exactement, et donc ça va être.
Le crossover qui suit.
Le prochain, Panini le refait de cette manière, le Crimson Rain, oui. Si j'ai bien compris.
Ouais.
Et donc là, on va pouvoir repartir sur ce genre de critique.
Ben, il faudra qu'on en rediscute, parce que vu le rythme, si le rythme est un peu similaire, ça sera pas forcément pertinent. Et il vaudra peut-être mieux qu'on attende les volumes individuels. On va en discuter. Mais si
moi,
on arrive à la
ça.
Si ça on arrive à la conclusion que ça c'est
et ouais, puis voilà. ça nous entretient. Les lire à la suite, je sais pas dans le scénario, moi je suis moins fan parce que ce qu'on disait c'est qu'une fois que tu as lu un tome qui te raconte la fin, les autres c'est moins excitant de les lire quand même.
Ben ouais, je sais pas du tout. Faudrait
moi,
voir
j'aime
comment
bien cette formule. Ça peut être intéressant de sonder aussi les gens qui nous écoutent, voir leur
bah, bien
point
sûr.
De vue en fait.
Bah ouais. Bah de toute façon, toutes les personnes qui. On vous invite tous, vous qui avez écouté cette émission ou ces émissions, à nous donner votre point de vue en commentaire, sur YouTube, donnez-nous votre avis, rejoignez-nous sur Discord et dites-nous quoi. C'est important pour nous.
Oui, parce que ça serait bon peut-être de le rappeler pour ceux qui ne savent pas, mais là, ce crossover War of the Bounty Hunter, c'est le premier crossover d'une trilogie basée donc, sur le personnage de Kira et de l'organisation Crimson Dawn. Donc, et on en a souvent parlé le long de toutes ces émissions, c'est qu'il y a un deuxième crossover qui s'appelle donc, Crimson Rain, que tu mentionnais, Thomas, qui est en cours là, en ce moment en VO, et donc qui va suivre là, juste après en VF, là, et qui suit le même modèle que la Guerre des Chasseurs de Primes, donc une mini-série en 5 numéros, et un crossover avec les 4 régulières.
Et après, il y aura un autre crossover
c'est ça.
Qui va faire une trilogie, finalement.
Voilà, c'est une trilogie de crossover, c'est ça. Il y aura, c'est Hidden Empire, qui n'a pas encore commencé en VO. On est encore sur Crimson Rain. Mais par contre, là, ce qui est annoncé pour The Hidden Empire, donc la troisième partie du crossover, c'est qu'une mini-série. Pour l'instant, ils n'ont pas confirmé le fait qu'il y aurait une crossover entre les régulières. On verra dans les mois à venir.
On peut partir sur le fait que ça va avoir la même typologie. Et peut-être que ça va nous raconter la fin de l'Aube écarlate aussi, hein, parce que
on
n'en a pas entendu parler à partir de l'épisode 6. Alors,
ça m'étonnerait qui plie les Gaules dans un comics.
Ah, on ne sait pas, on verra.
Okay, si on part sur une ouverture là, justement, moi j'ai trouvé que le retour de Kira et de Chris Sumdown pour ce crossover là, c'était le bienvenu, quoi. C'était vraiment la grosse surprise et le truc qui nous a tous hypé. C'est quand même une révélation de fou à la fin du premier volume, quoi. Et je trouve, et voilà, mais maintenant, moi ce que j'attendrai de cette période là, entre la 5 et le 6, vraiment, moi je sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'aimerais vraiment connaître comment Luke donc a construit son nouveau sabre laser que tu vois dans l'épisode 6 et comment il est devenu Jedi, parce que je sais pas si tu te rappelles, dans un des numéros de Star Wars, il y a un dialogue entre Dark Vador et lui qui lui dit mais t'es pas encore un Jedi, et Luke qui se dit oui mais je vais le devenir, et nous on le sait qu'il deviendra dans l'épisode 6, et comment du coup ça c'est un pan de l'histoire entre le 5 et le 6 qui m'intéresse énormément, donc j'espère que
je pense que là il avait un petit peu. Dans ce crossover, il avait un peu son arc à part. C'est-à-dire qu'on le retrouve avec le... Enfin, il rejoint le groupe, mais finalement, il ne les rejoint pas physiquement. Il est juste présent en orbite de Jekara et il reste dans son chasseur. Et avant ça, avant de les rejoindre, il est parti aider une partie des rebelles. Donc, je pense qu'on peut largement imaginer qu'on va rester sur le même type de structure, que là, pour le coup, en plus, on ne va vraiment pas avoir besoin de lui dans le crossover à venir. Et qu'on aura un Luke qui va continuer sa quête Jedi d'un côté, pendant que Leia va mener la rébellion à se reconstruire et peut-être à vaincre l'emprise de l'aube écarlate. À moins que les Chevaliers de Rennes soient envoyés sur la trace de Luke par Kira, pour une raison qui pour l'instant m'échapperait.
Moi je les imagine mal flinguer l'aube écarlate parce que du coup, ça fait un nouvel élément du bac à sable en fait pour les scénaristes, autant comics que comment dire que séries. Tu vois bien que même des personnages très vieux, ils ont du mal à les tuer vraiment parce que finalement c'est hyper utile. Alors déjà des personnages secondaires, ils ont du mal, mais là des personnages canonisés par les films, moi j'ai du mal à les imaginer flingués parce que le comics n'est pas lu par tout le monde. On voit bien que chez Star Wars en direct, même, on est une minorité à lire les comics. Il y a des gens qui attendent la fin de l'Aube écarlate. Et si on doit voir une fin, à mon avis, elle sera maxi en série, et au mieux en film. Mais je vois mal le truc finir sur un comics. Enfin, très franchement.
Bah ouais, ça on va le voir. De toute façon, on va le voir.
On aura la réponse très bientôt. Voilà, de toute façon.
Là, on va avoir 5 mois de crossover, donc on va arriver sur fin d'année. Et donc, début d'année prochaine, je pense que si les crossovers s'enchaînent, début d'année prochaine, on sera fixé, quoi. Donc finalement ça va aller quand même assez vite. Est-ce que vous avez autre chose, messieurs, à ajouter avant qu'on passe à la note?
Juste vite fait, tu parlais du flashback Slo Kira qu'on voit dans un Star Wars, je crois, un numéro de Star Wars, je sais plus.
Ouais.
Je me demandais si ce flashback là, c'est parce que je me rappelle d'un passage comme ça dans le roman Most Wanted de Rae Carson. C'est quoi, c'est Mort ou Vif, j'imagine, en français.
Ouais,
je crois que c'était Mort ou Vif. Je crois me rappeler d'une scène comme ça où tu les voyais les deux allongés comme ça sur une espèce de parabole là, et qui discutaient, ouais, comme ça. Et bon, j'ai pas réussi à retrouver l'info, mais je me serais pas surpris de savoir que c'est une scène prise de ce roman là, ou en tout cas c'est la même période, ça c'est sûr. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa comme petit clin d'œil. Tu disais les liens entre, ouais, les films et les comics, donc ça c'était cool.
Bah, en toute sincérité, moi je me souviens de ce roman, je me souviens que je l'avais beaucoup apprécié.
Oui, très bien.
Mais je me souviens pas de cette scène en particulier.
Non ? Ouais. Bon, bref, c'était juste un petit truc comme ça. Et pareil pour le Lando qui parlait, alors ça c'est une scène, pareil, j'en ai pas trop parlé, mais vous l'avez bien fait. C'est quand il parle au Faucon, en fait, qui parlait à L3, en mode introspection, là, avec le petit merci à la fin, assez émouvant, quoi, en mode monologue et tout. Et ça, c'est. Ouais, c'est. Ça m'a pas fait tirer l'alarme, mais pas loin, tu vois. C'était un bon moment. C'est beaucoup de dialogue, en fait, dans les Star Wars, dans le 17 et le 18, qui ouais, tu vois que Charles Soule, quand même, il a quand même ce temps-là de dialoguiste, quoi, qui est vraiment très, très sympa. Et le dialogue Leia, Lando aussi, j'ai beaucoup aimé.
Et mine de rien, quand même, ça fait. Depuis 2015, donc ça fait déjà 5, 6, 7, ça fait déjà 7 ans qu'il est sur le canon Star Wars en comics. Mm-hmm. Il commence à avoir un petit peu de bouteille. Mm-hmm. Je pense que ça se ressent aussi.
Ouais,
il a construit pas mal de choses.
Il est bon. Pareil, il a plein de la petite pique que Lando fait quand il voit l'état du Faucon, quand il embarque sur le Faucon. Justement, en lisant la trilogie légende de Han Solo, là, tu vois que comment Solo, il va modifier, dès qu'il chope le Faucon dans le troisième tome, il modifie tout à son image, quoi. Et là, le fait que Lando arrive et fait « Ok, donc c'est plus le Faucon que j'ai connu » et tout, c'était plutôt sympa.
Ouais, c'est pas mal, ça.
Les petits détails comme ça. Et je sais pas, j'en ai même pas trop parlé, mais tout le long de ces émissions, d'ailleurs, et c'est dommage que... c'est peut-être le fait que Francis ne soit plus avec nous, quoi, mais c'est les couvertures.
Ah oui,
j'ai pensé,
oui,
les couvertures. Il faudrait qu'on fasse 2-3 mentions couvertures. Donc là, tu as sélectionné, ouais, une superbe couverture là, pour la miniature de cet épisode-là, là, et que je trouve vraiment magnifique, quoi.
Ouais.
Mais sinon, en général, vous avez pensé quoi des couvertures?
Je ne les ai pas trouvées. Alors, il y a parmi le crossover des volumes où les couvertures étaient vraiment plus sympas qu'ici. Là, je les ai trouvées assez fades et j'avoue que j'ai même eu du mal. Enfin, j'ai eu du mal. C'est-à-dire que j'ai fait le tour des couvertures des numéros. Et il n'y a que celle qui est en miniature avec Leia, Kira, la Carbonite et Boba Fett qui m'a semblé la seule à même de représenter un peu l'histoire ou le thème du volume.
Ouais. Et celle de la mini-série de War of the Bounty Hunter, là, avec Boba Fett, justement, souvent en couverture, c'était pas trop, ouais, mal aussi. J'aimais,
ouais,
bien celle-là.
Moi, personnellement, j'étais pas fan.
T'es pas fan? Okay. Ouais, non. C'est un style, hein, après.
Ouais, c'est un style, moi, différent. Même un peu le trait un peu comment dire, un peu sale à la Frank Quitely, j'ai trouvé.
Ah,
et du coup sur du Star Wars, j'adore Quitely, mais sur du Star Wars ça me semblait moins bien adapté, même si c'était pas lui qui dessinait, hein, c'est juste que ça me faisait penser à ça.
Ça ressemblait à ça.
Ouais.
Je regrette énormément, par contre, moi, c'est s'il est Afra, j'aime beaucoup les intérieurs. C'est les couvertures d'Afra, je suis vraiment dégoûté d'avoir perdu. Je pense que Francis, s'il écoute, il sera un peu d'accord. D'avoir perdu Ashley Witter, là, qui faisait les couvertures de la première série 2007, qui était magnifique, quoi. Ouais. C'est des œuvres d'art, les trucs. Et depuis,
c'est une catastrophe. C'est
pas top. Ah non, c'est pas ouf. Là, c'est celle avec Destik, là, elle est. Ouf, qu'est-ce qu'elle est moche.
Ouais.
Mais bon. Donc, ouais, du chaud et du froid, quoi. Il y a tellement de couvertures, tellement de numéros que il y a un peu de tout, quoi. Ah, les one-shots aussi étaient pas mal. J'ai beaucoup aimé les one-shots, les couvertures, les one-shots. Voilà.
Eh ben, vas-y, donne-nous ta note.
Ok, alors en conclusion, alors, moi j'ai fait deux notes. J'ai fait une note du volume et une note du crossover en général. Parce que,
très bonne idée.
Voilà, donc vous avez commencé à comprendre, mais moi j'ai passé un super moment, malgré toutes les critiques qu'on a énumérées. Donc oui, il y a des numéros dans le tas qui m'ont plus emballé que d'autres, évidemment. Comme tout, quoi, ça va dépendre de notre affection aux personnages, aux scénarios, aux auteurs, aux dessins. Quoi. Enfin, moi j'ai trouvé, donc, de manière générale, les Afra toujours tip-top. Les Star Wars et les Bounty Hunter, très agréablement surpris aussi, généralement, de manière générale. La mini-série principale aussi, niveau scénario. Après dessin, c'était autre chose, quoi, mais au niveau scénario, moi ça m'a conquis. Et il y a peut-être donc, les Dark Vador qui m'ont un peu moins passionné. Que les autres. Niveau artiste, par contre, à part Ross, comme on le répète, moi, vraiment, j'ai pas eu de soucis majeurs sur les dessins, j'ai quasiment tout apprécié, donc ça va, quoi. Et c'est au niveau scénarique, voilà, l'intrigue principale, j'ai trouvé quand même de qualité. Broder sur l'intervalle entre les épisodes 5 et 6 et se focus sur la chasse de Solo, c'était plutôt une bonne idée que j'ai trouvé. Le retour de Kira aussi, c'était bienvenu. Donc, ouais, non, le crossover en général, moi, je mets un bon 18, hein, j'ai passé un très bon moment. Et ce volume-là en particulier, un 17 sur 20. Quoi. Donc, très très bon. Voilà.
Ok. Vas-y, Thomas, à toi. Alors, tu peux mettre les deux notes aussi. Hein,
ouais, c'est ce que je pensais faire aussi. Je réfléchissais justement. Alors, sur ce tome-là, je mettrais un 13 sur 20 parce que je trouvais que le début est très bien. Donc, je suis plutôt proche du 15, mais sur la fin, plutôt 11. Donc, je fais une moyenne. Donc, je dirais que le tome-là est à 13 sur 20. On se rappelle que certains, je n'ai pas mis la moyenne, mais. Globalement, sur l'ensemble du crossover, pas plus de 10 ou 11, parce que finalement, sa longueur et l'inutilité d'une majorité d'issues, en fait, fait que, ouais, non, 10, quoi, pas plus.
Eh ben, moi, pour ce volume, je vais partir sur un 15, parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Alors, je sais pas si je le note juste en tant que volume, ou si forcément le fait que j'ai été un peu déçu sur les volumes d'avant me fait réévaluer cette note, mais peu importe. Je lui mettrai donc un 15. Et sur l'ensemble du crossover, je serais parti comme toi, Thomas, sur un 10. Mais finalement, je vais le sanctionner un petit peu et je ne vais lui mettre qu'un 8. Justement pour les raisons que tu as données, Thomas, à savoir que je déconseillerais l'achat aussi de ce crossover. Alors j'étais déjà très perplexe, on va dire, sur l'idée de base de partir sur... l'interception de la carbonite par Han Solo et de voir tout le monde venir le chercher. Globalement, mon avis n'a pas évolué. Je pense que cette histoire ne sert à rien, si ce n'est ramener l'aube écarlate. Et est-ce qu'on ne pouvait pas ramener l'aube écarlate d'une autre façon ? Alors, c'est vrai que Kira, Solo, l'aube écarlate, c'est un développement logique, mais finalement, ça m'embête quand même un petit peu. Donc, je vais décider de le sanctionner alors que j'étais parti sur un 10. Je vais mettre quand même un 8. Ce qui va vous dire si vous fiez à cette note. Non, je ne l'achèterai pas. Oui, je l'emprunterai peut-être à la bibliothèque pour savoir ce qu'il en est ou si un copain me le prête. Mais pas plus, quoi. Donc voilà, sur ces notes, on va conclure cette édition de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, venez nous donner vos commentaires, venez partager avec nous, venez nous dire sous quel format vous avez envie qu'on traite les prochains crossovers. Facebook, Twitter, Instagram, Discord, vous le savez forcément. On fait tellement de martelage sur Discord, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, ça nous fait vraiment plaisir et c'est très très agréable. Sur notre chaîne YouTube, vous pouvez aussi, comme je l'ai dit, nous laisser vos commentaires, mais aussi vous abonner. Activez la cloche pour avoir les notifications des émissions et surtout des lives. Vous êtes prévenus, voilà, quand il y a un live, qu'il soit prévu ou pas. Et voilà. Et n'hésitez pas à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux pour nous aider à ramener encore du monde sur notre serveur Discord, mais pas que. Voilà. Eh bien, de la part de toute l'équipe, de Jean et de Thomas, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. Et que la force soit avec vous.
Ciao.
Bye bye.